Vers une nouvelle libération d'otages israéliens, le Hamas annonce la libération dans les prochaines heures de 4 jeunes femmes membres de l'armée israélienne. Le procès de la honte devant la cour d'assises de l'Hérault. La mère d'Amandine, morte de faim en 2020, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour actes de torture et de barbarie. Ce week-end politique sera dense en Calédonie. Le FLNKS organise aujourd'hui son 44e congrès à Saint-Louis. Le Palika réunit une assemblée générale à Wailou et l'UPM organise un comité central à Dimbéa. L'Ordre de Malte se mobilise contre la lèpre. L'association organise sa 72e quête annuelle. Elle se déroulera tout au long du week-end dans le Grand Nouméa, à la sortie des messes et des grandes surfaces. Le sport et le football, et le coup d'envoi ce matin de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Duel de promus au stade Abbé Deschamps où Auxerre reçoit Saint-Étienne. Et puis le tennis, on connaît l'affiche de la finale messieurs de l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial italien Yannick Sinner affrontera demain l'Allemand Alexander Zverev. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal à la une ce matin. L'actualité à l'étranger, au Proche-Orient, le Hamas a annoncé cette nuit pour nous qu'il s'apprêtait donc à libérer de nouveaux otages israéliens dans les prochaines heures. Le groupe terroriste indique qu'il s'agit de 4 femmes, 4 militaires qui avaient été enlevés aux premières heures du pogrom du 7 octobre 2023. La libération de ces 4 femmes pourrait donc intervenir dans les prochaines heures, mais Israël reste très prudent. Frédéric Simon pour Europe 1.
Israël a confirmé officiellement avoir reçu la liste des 4 otages qui doivent être libérés demain, sans donner de précision sur les noms qui y figurent. Alors où nous parlons, un responsable haut placé a précisé que cette liste ne correspondait pas au terme de l'accord. L'explication la plus probable, le Hamas était engagé à libérer prioritairement toutes les femmes civiles encore en captivité. Or, dans cette liste communiquée, figurent 4 des 5 soldats capturés le 7 octobre 2023. Des consultations ont lieu en ce moment même autour de Benjamin Netanyahu et des autres dirigeants israéliens, civils et militaires. L'attitude qui sera celle d'Israël face à cette violation des termes de l'accord par le Hamas n'est pas encore tout à fait connue, mais les médias israéliens confirment ce soir que l'armée et les services hospitaliers se préparent bien à la libération des 4 soldats demain. Cela dit, l'incertitude demeure sur la volonté d'Israël face à cette nouvelle donne de respecter ses propres engagements conditionnés par ces nouvelles libérations, à savoir l'autorisation donnée au retour dans le nord de la bande de Gaza de plusieurs centaines de milliers de civils gazaouis et la libération par Israël de dizaines de détenus palestiniens, certains condamnés à perpétuité pour meurtre et activité terroriste.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. À l'étranger encore, Vladimir Poutine se dit prêt à des discussions avec le nouveau président américain Donald Trump pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. Durant la campagne pour la présidentielle américaine, le candidat Trump avait expliqué qu'il réglerait cette question de la guerre en Ukraine en 24 heures. Aujourd'hui, le président Trump donne 100 jours à son émissaire spécial pour régler le dossier ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit opposé à toute négociation entre les États-Unis et la Russie. À la une, l'actualité en métropole avec la fin d'un procès hors norme devant la cour d'assises de l'Hérault. Le procès d'une mère de famille accusée notamment de violences et d'actes de torture et de barbarie sur Amandine, sa propre fille Charlotte Coulson.
Quand elle est décédée, Amandine mesurait 1m55 pour seulement 28 kilos. La fillette de 13 ans et demi est morte de faim en 2020 après avoir été enfermée plusieurs semaines dans un débarras. Sa mère, Sandrine Passari, que le procureur a décrite en tyran domestique et bourreau de sa fille, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Avec une période de sûreté de 20 ans, elle ne fera pas appel. Son conjoint écope quant à lui d'une peine de 20 ans d'emprisonnement. Victime de violences depuis la petite enfance, Amandine était punie par sa mère à coups de poing, tirage de cheveux ou encore douche froide. Malgré plusieurs rapports des établissements scolaires, l'enfant n'a jamais fait l'objet d'aide des services sociaux. Le père d'Amandine, séparé de Sandrine Pissara, n'était semble-t-il pas au courant de l'horreur que vivait sa fille. À l'annonce du verdict, son avocat a lancé un appel pour qu'une telle barbarie ne se reproduise jamais.
C'est la justice des hommes qui a rendu un verdict. Ce verdict est à la hauteur de la gravité des faits. Au-delà de la responsabilité qui a été décidée, la responsabilité individuelle, il faudra maintenant que la société se pose des questions sur le fonctionnement de l'institution et la protection de l'enfant. Ça n'enlève rien à la responsabilité des auteurs, mais il y a beaucoup de choses qui ont dysfonctionné.
Condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, la mère d'Amandine a reconnu tous ses actes de torture, sans pour autant fournir d'explication à ses gestes barbares.
Venons-en à l'actualité en Calédonie, actualité politique. Le week-end qui s'ouvre sera notamment marqué par le 44e congrès du FLNKS. Il se réunit aujourd'hui à Saint-Louis, Michael Juneski.
Avec deux thèmes dominants, la stratégie indépendantiste en vue des discussions sur l'avenir institutionnel et de l'organisation du front. Comme lors du précédent congrès à Pagou, le Palika et l'UPM ont été invités mais n'y participeront pas. Le Palika sera réuni en assemblée générale à Wailou et l'UPM sera à Dimbéa en comité central. Un congrès du FLNKS auquel participeront en revanche des représentants des partis indépendantistes venus de départements et territoires d'outre-mer, ainsi que des représentants de partis hollandais qui sont réunis depuis hier à Nouméa après s'être regroupés dans un front à l'initiative de l'Azerbaïdjan en juillet dernier. À ce propos, Génération NC dénonce l'organisation en Calédonie d'un congrès des indépendantistes radicaux issus du forum de Bakou. Cet événement réunissant des mouvements hostiles à la France est d'autant plus inadmissible, écrit Nina Julier, porte-parole de Génération NC dans un communiqué, qu'il se déroule sur le sol français dans un contexte marqué par une insurrection violente récente. Nous demandons à l'État de condamner cette manœuvre qui vise clairement à déstabiliser notre démocratie, conclut Génération NC.
Et toujours dans l'actualité politique, Michael, ce communiqué des membres indépendantistes du gouvernement, ils estiment que ce 18e gouvernement est né avec un déni de collégialité.
Selon eux, pour la première fois, la répartition des secteurs n'a été précédée d'aucune discussion en collégialité, mais imposée après une succession désordonnée d'échanges séparés et de propositions sans cesse démenties du fait de l'intervention des états-majors politiques. Il en résulte une répartition inacceptable parce que déséquilibrée, écrivent Adolphe Digoué, Claude Gambet, Gilbert Thuyénon, Michael Forest et Samuel Népéoun. Il semble que le président Alcide Ponga et la majorité du 18e gouvernement ont décidé d'inscrire leur action dans le prolongement de la cabale orchestrée par Calédonie Ensemble, les loyalistes, le Rassemblement et l'Éveil océanien pour justifier la chute du gouvernement, écrivent-ils.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à notre question d'hier. Alors que le Palika et l'UPM ne participent pas au congrès du FLNKS ce week-end, comme ils n'ont pas participé au congrès précédent, 90% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'ils doivent quitter le FLNKS. Ils sont 10% à penser que le Palika et l'UPM ne doivent pas quitter le FLNKS. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Un rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Le club politique de Radio Rythme Bleu fait sa rentrée et ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons sa rediffusion. Au sommaire, l'actualité des dernières semaines avec la chute du 17e gouvernement présidé par Louis Mapou et la constitution du gouvernement Ponga. Les consultants du club ont aussi décrypté les divisions du camp indépendantiste et la tenue ce samedi du 44e congrès du FLNKS à Saint-Louis. Ils ont enfin évoqué l'éventuelle reprise le mois prochain des discussions sur l'avenir institutionnel. Une émission disponible également en audio sur le site internet de Radio Rythme Bleu, rrb.nc. Il est 7h08, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est la suite de l'actualité en Calédonie.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info week-end, Lionel Sabot.
Et du changement à la mairie de Kouaoua. Le maire Alcide Ponga a démissionné de son siège pour se consacrer pleinement à sa tâche de président du gouvernement. Le conseil municipal s'est réuni hier après-midi pour désigner son successeur, Michael.
Et c'est Patrick Harry qui a été élu. Il a recueilli 12 des 15 voix du conseil municipal. Les trois autres membres se sont abstenus. Le maire sortant, Alcide Ponga, est confiant pour cette transition. Patrick Harry, de tendance indépendantiste, faisait partie de la majorité mise en place lors de son premier mandat en 2014.
La transition s'est passée de façon très très sereine. et en toute confiance. Et je suis plus que confiant. Le travail va continuer et je pense que ben, les choses vont pas changer. On est une équipe et on reste une équipe et puis on s'entraidera jusqu'au bout. Je conserve mon siège au sein du conseil municipal et puis à la demande de la majorité, ils m'ont confié le titre de 4e adjoint.
Patrick Harry, le nouveau maire, connaît bien le conseil municipal de Kouaoua et il entend inscrire son action jusqu'à la fin de la mandature en 2026 dans les traces de son prédécesseur.
On va suivre la continuité du travail que l'équipe a mené depuis cette deuxième mandature pour pouvoir finir cette dernière année de mandature.
Il y a des chantiers importants qu'il faut poursuivre et concrétiser d'ici la fin de la mandature.
Deux chantiers à venir, c'est finir notre déchetterie. Et changer le grand bassin d'eau qui ravitaille les trois tribus de la vallée. Il n'y a pas de souci dessus. On va dire l'opposition, c'est comme s'il n'y a pas d'opposition. On travaille tous ensemble.
Patrick Harry, le nouveau maire de Kouaoua, joint au téléphone par Jean-François Baudin.
Les horaires d'ouverture de la RP1 au niveau de la tribu de Saint-Louis évoluent. La route provinciale est désormais ouverte de 5h à 22h, indiquent les services du Haut-Commissariat sur sa page Facebook. Une évaluation de la situation par les forces de sécurité sera faite courant de la semaine prochaine en vue d'une réouverture totale de la route à partir du samedi 1er février, indique également le Haut-Commissariat. Un grave accident de la circulation survenu hier matin à Nouméa au niveau du Ciné City. Une moto descendant la rue de la Victoire a percuté un véhicule de la police municipale qui arrivait de la rue de Verdun. La voiture de police qui se rendait sur une intervention avait mis ses gyrophares. Le motard de 35 ans roulait apparemment à vive allure et n'aurait pas vu la voiture. Il a été évacué sur le Médipôle de Coutio. La police nationale verbalise 55 auteurs d'infractions routières en une heure de contrôle. Les forces de l'ordre étaient postées ce jeudi sur la vidéo. Résultat, trois automobilistes se sont vus retirer leur permis sur le champ pour un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Et quatre conducteurs se sont vus voir remettre une ordonnance pénale délictuelle avec une amende pouvant se chiffrer à plus de 80 000 francs. La police nationale rappelle que les contrôles routiers sont quotidiens et même renforcés depuis le début de l'année. Rappelons également que sur la vidéo, la vitesse est limitée à 70 km/h. Un diplôme pour mieux appréhender le handicap dès cette rentrée universitaire. Un diplôme handicap, inclusion et management sera proposé aux Calédoniens. Né d'un partenariat entre l'association Collectif Handicap et l'UNC, ce diplôme universitaire vise à donner des fondamentaux sur le secteur du handicap et comment intégrer les personnes en situation de handicap dans la société et en entreprise. Il est destiné en priorité aux acteurs du secteur public comme du privé et associatif pour acquérir les outils indispensables pour une Calédonie plus inclusive, explique Hugo Klinghoffer, responsable du collectif handicap.
Depuis très longtemps, on œuvre pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. On espère qu'avec ce diplôme universitaire, les personnes qui ont des postes à responsabilité dans les entreprises, notamment des managers ou des gens dans les ressources humaines, puissent avoir les clés et les outils adéquats pour pouvoir intégrer au mieux un travailleur handicapé. Ça vient combler un manque aussi dans la formation sur ce secteur qui est encore trop méconnu du grand public et même des gens en entreprise, par exemple. Il faut savoir que sur le groupe handicap, il y a deux grandes lois qui datent de 2009, notamment une loi sur l'obligation d'emploi. Donc en métropole, on est à 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En Calédonie, cette loi, elle est à 2,5%. Et aujourd'hui, on est encore très loin de ça. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 4 500 travailleurs handicapés et seulement 600 sont en emploi aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de travail. Et c'est un des objectifs et une des missions du collectif, c'est justement de mettre en place des outils ou des projets pour insérer au mieux les personnes en situation de handicap.
Les 15 places sont disponibles pour ce diplôme universitaire qui se déroulera sur 7 mois à compter du 18 février. Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Après une baisse des activités le week-end en cette période de vacances scolaires, les rendez-vous reviennent peu à peu, à commencer Charlotte Coulson par le retour des visites sur les différents sites historiques du territoire.
Des visites guidées du pénitencier du bagne de Lille-Noue à Nouville sont proposées ce matin de 9h à 11h. Il est possible de réserver directement sur place ou par téléphone au 73 77 83. Visite également au Cambrin entre Boulou-Paris et La Foy de 9h à 11h30. La réservation est obligatoire au 44 44 32 71. Et dans un autre registre, le parc provincial des Grandes Fougères propose ce soir une visite guidée nocturne et gratuite d'environ 2 heures pour découvrir les cagous dans leur milieu naturel. La réservation est obligatoire au 20 39 55. D'autres visites seront organisées les 1er et 8 février.
L'événement à ne pas manquer demain sera très certainement la fête de la tortue tabouraille.
Un événement organisé par l'association Les Artisans de 7h à midi. Les visiteurs pourront retrouver au snack Marco & Co à la Roche-Percée un marché artisanal et des stands d'information de l'association Boire à Tortue Marine. Il sera également possible d'observer les éclosions des bébés tortues.
Et demain, les amateurs de bonnes affaires seront également servis avec la reprise de la Foire des Affaires de Mont-d'Or.
Le rendez-vous n'a pas changé pour cet événement devenu incontournable au fil des ans. Les Calédoniens peuvent se rendre sur le parking du drive-in au Pont des Français de 6h à midi. Et les chineurs pourront aussi se rendre à Dimbéa dans les locaux de l'Aspanc à Coutio pour une brocante organisée au profit des animaux de son refuge. Le rendez-vous est donné entre 7h et 11h. Et à cette occasion, le calendrier 2025 de l'Aspanc y sera proposé à 1000 francs.
Et notez encore que l'Ordre de Malte sera mobilisé tout le week-end aux sorties des centres commerciaux et des messes dans tout le Grand Nouméa pour récolter des dons pour lutter contre la lèpre. Écoutez, Yann Carpentier, c'est le président de l'association L'Ordre de Malte.
Chacun donne ce qu'il peut donner pour nous aider. Alors, pour aider l'Ordre de Malte France, qui gère un peu plus de 17 léproseries dans le monde, et aider bien sûr l'association locale, parce que lorsqu'on va dans une tribu qui est à 5 heures de route, il faut payer l'essence. Il n'y a pas une famille calédonienne qui n'a pas connu ou qui n'a pas eu dans sa famille ou ami un lépreux. On n'a pas encore basculé de génération, donc ils sont sensibilisés de manière assez générale. Et ce qui est fréquent, et ce qui nous touche beaucoup, c'est qu'ils sont généreux. Malheureusement, la situation elle est comme elle est, et on serait beaucoup difficile. Mais je veux dire, au lieu de 500 francs, 200 francs, c'est énorme pour nous.
Des propos recueillis par Liana Colombo. La lèpre est une maladie contagieuse qui se transmet par les voies respiratoires ou au contact de crachats et sécrétions nasales. Il est possible de guérir de la lèpre avec un traitement rapide. Dans le cas contraire, la maladie peut causer des infirmités définitives des membres et des yeux. Et puis, cette bonne nouvelle pour commencer le week-end. La baignade n'est plus déconseillée à Nouméa. Jeudi, des nappes d'algues s'étaient formées sur les plages. En plus d'être très odorantes, les algues pouvaient provoquer des réactions urticantes au contact de la peau. La mairie avait donc choisi de déconseiller la baignade aux plaisanciers. Heureusement, ce phénomène naturel s'est résorbé de lui-même hier. Les Calédoniens peuvent donc profiter sans crainte de la fraîcheur de l'eau. Il est 7h18, on marque une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. Toute l'actualité sportive et la météo de votre début de week-end.
Bonne année à tous de la part de Magie. Que cette nouvelle année soit remplie de saveurs délicieuses et d'expériences culinaires inoubliables.
Chez Magie, nous vous accompagnons tout au long de l'année avec nos produits savoureux et inspirants. Magie, cuisiner, ça change la vie.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les deux minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicape et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, c'est du sport, Lionel Sabot.
Et on va commencer avec le football et le début de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1 et Auxerre qui accueille Saint-Etienne ce matin, Mickaël Juneski.
Oui, un duel de promus en match d'ouverture. Pour le moment, les Auxerrois sont 11e du classement, les Stéphanois à la 16e place. Le coup d'envoi a été donné à 6h45 pour nous. Le score est déjà de 1-0 en faveur d'Auxerre après 30 minutes de jeu dans un bas de tableau où les écarts sont très serrés. Auxerre comme Saint-Etienne pourrait réaliser un joli coup en cas de succès ce matin. Pour le moment, ce sont les Bourguignons qui ont donc l'avantage, encore 60 minutes à jouer dans le temps réglementaire sur le terrain des Auxerrois. Dès demain, Monaco affrontera Rennes à partir de 3h. Strasbourg sera opposé à Lille dès 5h. Et le Paris Saint-Germain, leader du classement, recevra Reims à partir de 7h05.
Un mot de handball avec l'équipe de France qui continue l'aventure dans le tour principal du championnat du monde. Les Bleus sont invaincus et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils seront opposés opposé demain matin à la Macédoine du Nord. Le coup d'envoi de la rencontre à 6h30. On passe au rugby, Mickaël, avec la 15e journée du top 14 qui débute ce soir.
Oui, à partir de minuit, une belle affiche entre le Stade Toulousain et Montpellier. Puis, en simultané, à 2h du matin, le Racing 92 qui sera opposé à Castres. Vannes qui fera face au Stade Français. La section paloise accueillera Clermont et Perpignan recevra Bayonne. À 7h15, l'actuel leader, l'Union Bordeaux-Bègles, croisera le fer avec le Lyon Olympique Universitaire. Enfin, lundi matin, la dernière rencontre opposera Toulon à La Rochelle.
Il y a également du rugby à 7 et c'est en Australie.
Ouais, la troisième étape de l'HSBC Sevens Rugby pour les équipes de France. Les messieurs sont dans la poule de l'Irlande, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. Les femmes se retrouvent également avec l'Espagne, mais aussi la Chine et le pays hôte de la compétition, l'Australie. Après les deux premières étapes à Dubaï et à Cape Town, les Français comme les Françaises pointent à la troisième place du circuit mondial.
Du tennis à présent, on jouera ce week-end les finales de l'Open d'Australie.
Chez les dames, la Bélarusse, double tenante du titre et numéro 1 mondial, Arina Sabalenka, sera opposée ce soir à Madison Keys, l'américaine tête de série numéro 19, qui a battu le numéro 2 mondial, Iga Swiatek, en demi-finale. La finale sera à suivre ce soir à partir de 19h30 sur les courts de Melbourne. Chez les messieurs, on connaît aussi l'affiche de la finale. Elle opposera demain l'Italien Yannick Sinner à l'Allemand Alexander Zverev. Zverev qui a profité de l'abandon du Serbe Novak Djokovic sur blessure à la fin du premier set. L'ancien numéro 1 mondial qui rate l'occasion d'aller chercher un 25e titre en Grand Chelem. Il sort par la petite porte, sifflé par le public. Djoko a donc tenu à s'expliquer sur sa drôle de quinzaine à Melbourne et sur le fait qu'il n'ait plus donné d'interview de fin de match.
The famous sports journalist who works for official broadcaster.
Il y a quelques jours, un célèbre journaliste sportif qui travaille pour le diffuseur officiel du tournoi s'est moqué de certains fans serbes et a fait aussi des commentaires dénigrants et insultants envers moi. Depuis cela, il n'a pas présenté d'excuses publiques, pas plus que la chaîne. Donc j'ai choisi de ne pas donner d'interview à Channel 9. Je n'ai rien contre le public australien. C'était une situation étrange pour moi sur le court. C'est malheureux, mais ce n'était pas le moment ni l'endroit d'expliquer pourquoi je faisais ça. Et voilà pour la mise au point de Novak Djokovic qui voit donc son aventure à Melbourne s'achever. Dans l'autre demi-finale, l'actuel numéro 1 mondial, Yannick Sinner, a sorti sur sa route l'américain Ben Shelton en 3-7, 7-6, 6-2, 6-2. La finale, messieurs, se disputera demain à Melbourne.
Et en Australie toujours, en cyclisme, la quatrième étape du Tour Down Under a été remportée hier au sprint par le français Brian Coquard de la formation Cofidis. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Cette quatrième étape était longue de 158 km d'un parcours nord-sud émaillé de deux montées comptant pour le Grand Prix de la Montagne. Un timide soleil et une température moyenne de 20 degrés étaient au rendez-vous, de même qu'un vent de sud-sud-est à 20 km/h qui s'avéra gênant à l'occasion. Cinq coureurs ont pris le large peu après le départ et ont compté jusqu'à plus de 2 minutes d'avance sur le peloton qui a fini par les rejoindre un à un, le plus endurant à 10 km de l'arrivée de l'étape. Celle-ci a été remportée au sprint par le français Brian Coquard de l'équipe Cofidis devant l'allemand Phil Baus de l'équipe Bahrain Victorious et l'équatorien Jonathan Narvaez de l'équipe Emirates. Le classement général demeure inchangé. L'espagnol Javier Oliver de l'équipe Movistar le domine toujours devant Narvaez à 4 secondes et le néo-zélandais Finn Fisher-Black de l'équipe Red Bull Bora à 10 secondes. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, on passe au sport mécanique avec le championnat du monde des rallyes qui a débuté à Monte-Carlo, Mickaël.
Oui, et l'ancien champion du monde français Sébastien Ogier qui dispute toujours la compétition à la carte en vétéran de luxe. Et il creuse déjà l'écart en tête du général à l'issue des 9 premières spéciales. Le pilote Toyota devance son coéquipier gallois Elphyn Evans. Un autre français, Adrien Fourmeau, est en 3e position. Thierry Neuville, le belge sur Hyundai, est parti à la faute avec une sortie de route sur crevaison qui lui a fait perdre près de 2 minutes du sur le leader. Il reste encore 9 spéciales à disputer tout au long du week-end.
Un coup d'œil également à l'actualité des sports d'hiver.
Et en ski alpin, la série noire continue dans le camp tricolore avec Alexis Pinturo gravement blessé à Kitzbühel et qui ne pourra pas poursuivre la saison, notamment participer aux mondiaux la semaine prochaine. Un forfait qui intervient quelques semaines seulement après la chute et la blessure grave de Cyprien Sarrazin.
Et puis le sport côté calédonien du paddle en Polynésie française pour les champions territoriaux.
Oui, Lauren Spensley et Nicolène Godrella qui sont engagés sur le P250 de la Paddle Cup à Tahiti. Les Calédoniens sont dans la poule 3. Ils doivent affronter les 3 autres équipes avant de disputer, s'ils se qualifient, les phases finales. Ils ont joué leur premier match hier après-midi face à la paire Yomestaora et devraient jouer leur prochain match aujourd'hui et demain.
Merci Mickaël. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Nicolas.
Oui, alors ce matin et cet après-midi d'ailleurs, vigilance jaune pour fortes pluies orageuses, pour des averses localement orageuses, rares en matinée, mais qui se généraliseront cet après-midi, sauf sur l'île des Pins, où le risque orageux sera faible. Ce matin, aux Loyautés, sur la façade est et la pointe nord, le ciel sera nuageux avec quelques averses. Ailleurs, un soleil voilé dominera. Sur l'ouest, en début de matinée, le vent sera variable faible, puis des brises de secteur sud s'établiront proche de 10 nœuds. Sur la pointe nord, il sera d'est de 10 à 15 nœuds. Ailleurs, le vent soufflera entre 5 et 10 nœuds d'est à est-nord-est. Cet après-midi, le ciel sera plus souvent très nuageux, avec des averses parfois orageuses, mais qui circuleront en loyauté, et d'autres qui se formeront sur la chaîne avant de déborder sur les côtes principalement vers l'ouest. Sur l'ouest, le vent de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il sera d'est à sud-est entre 5 et 10 nœuds, localement entre 10 et 15 nœuds sur la pointe nord ainsi que sur marée en fin de matinée. Les températures seront comprises entre 31 et 33 degrés en général sur l'ouest. Elles pourront localement atteindre 34 à 35 degrés.